Nous ferons donc la lecture des trois passages qui nous ont été proposés dans l'invitation, en commençant par la première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 10. 1 Pierre 1, verset 10. Duquel saluent les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée, se sont informés et enquis avec soin, recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiqué, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit Saint envoyé du ciel, dans lesquels des anges désir regarder de près. Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 35. Luc 1, verset 35. Et l'ange répondant lui dit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, les versets 18 à 20. Matthieu 1, versets 18 à 20. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Mais Joseph, son mari, étant juste, et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Mais comme il méditait sur ces choses, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle et de l'Esprit Saint. Jusque-là.
En rapport avec le sujet d'aujourd'hui, je voudrais lire un verset en Lévitique 2, uniquement le verset 4. Lévitique 2, verset 4. Quand tu présenteras en offrande une offrande de gâteau cuit au four, ce sera de la fleur de farine, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain ointes d'huile. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce passage-là l'action du Saint-Esprit, où le Seigneur a été conçu du Saint-Esprit et ensuite le Saint-Esprit est descendu sur lui au baptême ?
Effectivement, dans ce passage de la première épître de Pierre, l'apôtre rend témoignage effectivement à l'Esprit Saint, qui est appelé d'ailleurs l'Esprit de Christ, dans ce passage, qui, est-il dit, était dans les prophètes pour rendre témoignage par avance des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et effectivement, c'est un témoignage à la façon dont le Saint-Esprit a agi depuis longtemps pour préparer, comme le sujet le présente, la venue du Seigneur sur la terre, annoncer sa venue et tout ce qui le concernait. Sa marche dans son œuvre, il est souligné ici, ses souffrances qui devaient être sa part et puis les gloires qui suivraient. Il agissait dans les prophètes. On vient de voir un passage en Lévitique aussi où le Saint-Esprit, à travers ses ordonnances concernant les offrandes, parlait aussi, annonçait ce qui concernait la personne du Seigneur Jésus, dont il est clairement question symboliquement dans cette offrande de gâteau, et plus spécialement la manière dont il serait effectivement à la fois conçu du Saint-Esprit et oint du Saint-Esprit à travers cette figure de l'offrande de gâteau, qui est à la fois pétrie à l'huile et ointe d'huile. Et je voudrais ajouter encore d'autres passages, bien sûr des exemples d'annonces des souffrances du Seigneur dans l'Ancien Testament et dans les prophètes. Et les gloires qui suivraient ne manquent pas. Je crois que ça serait trop long de s'y... On pourrait en citer, bien sûr, mais de les considérer. Je voudrais plutôt lire dans le prophète Ésaïe trois passages où l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ, justement, annonce à l'avance quelque chose en rapport avec le Messie et le Saint-Esprit. Donc, Christ et le Saint-Esprit. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns. Et on pourrait en lire un exemple, en se limitant au prophète Ésaïe. En commençant au chapitre 9, sauf erreur. Non, chapitre 11, pardon. Chapitre Ésaïe 11, verset 1. Et sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, une branche de ses racines fructifiera, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et son plaisir, donc le plaisir de ce Messie annoncé, sera la crainte de l'Éternel. Et il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux, ne reprendra pas selon l'ouïe de ses oreilles, mais jugera avec justice les misérables et reprendra avec droiture les débonnaires de la terre. Arrête là parce que la suite concerne alors sa seconde venue, le jugement. Et puis au verset 5, alors ça concerne plutôt le règne de mille ans. La justice sera la ceinture de ses reins, la fidélité la ceinture de ses flancs, et le loup habitera avec l'agneau, etc. On voit qu'on est dans le contexte du millénium à partir de ce verset. Mais ce qui est dit déjà au début est plutôt en rapport avec la marche du Seigneur sur la terre pendant sa première venue. Cet esprit de l'Éternel qui reposera sur lui. On va d'abord lire les autres passages et puis après j'y reviendrai brièvement. Ensuite, alors il faut aller au chapitre 42. Verset 1, « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas sa voix, il ne la fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas le lin ou la mèche qui brûle à peine. » Il fera valoir le jugement en faveur de la vérité. Il ne se lassera pas et il ne se hâtera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre et les îles s'attendront à sa loi. Là aussi, on n'a pas de rupture nette entre ce qui concerne sa première venue et puis sa future venue pour régner, mais on peut voir que peut-être la césure se fait au milieu du verset 4, jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre. Mais jusque-là, on peut dire que ça concerne plutôt sa première venue. Et le verset 3 et début du 4, 2, 3 et début du 4 sont un merveilleux résumé de son ministère de grâce dans l'humilité comme serviteur. Voici mon serviteur que je soutiens. Et il est dit aussi en remarque, « Je mettrai mon esprit sur lui. » On sait que ça s'est réalisé de manière très précise au moment du baptême par Jean le baptiseur. On y reviendra sans doute dans la deuxième partie de cette étude. mais combien on a effectivement déjà là annoncé à l'avance par l'esprit prophétique, comme le dit Pierre, cette scène du baptême où le Seigneur se présente comme serviteur, mais là c'est le Père qui parle, on peut dire, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme trouve son plaisir. C'est ce qui a été, c'est ce que le Père a déclaré au baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et puis tout de suite, il est dit, je mettrai mon esprit sur lui. C'est ce qui s'est passé aussi lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui à ce moment-là. C'était déjà annoncé à ce moment, si longtemps à l'avance. Et puis on va lire encore le dernier passage aussi. En Ésaïe 61, toujours au premier verset, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel. » Et on peut, comme le Seigneur lui-même, s'arrêter au milieu du verset, puisque là aussi, c'est jusque-là que va l'annonce de sa première venue, alors que la suite, pour le jour de la vengeance de notre Dieu, que le Seigneur n'a pas cité dans la synagogue de Nazareth, concerne clairement le futur, sa deuxième venue en gloire. Mais on est frappé dans ces trois passages de voir comment l'annonce du fait que le Seigneur serait oint du Saint-Esprit et agirait par le Saint-Esprit, comme on le verra tout à l'heure, et était déjà l'objet de la prophétie, d'une part, c'est ce que dit Pierre dans son épître, comme nous l'avons lu, et d'autre part, est lié d'une façon très touchante au ministère de grâce du Seigneur. Dans les trois passages, il est annoncé ce qu'il fera de manière très très touchante. En tant que Messie, il vient pour s'occuper des humbles, des débonnaires, des captifs, des malades, sans se lasser, sans se hâter, dans l'humilité. Il a accompli un service de grâce et de miséricorde. Voilà ce qu'il fait comme conséquence, en quelque sorte, de son onction de l'Esprit. Combien c'est touchant que ces deux points soient liés. Et en même temps, on voit qu'il y a un angle différent dans chacune de ces annonces prophétiques. Donc, je l'ai déjà mentionné, en Ésaïe 42, on y voit l'annonce de son baptême, du baptême au Jourdain et de son onction par le Saint-Esprit à ce moment-là. En Ésaïe 61, j'ai fait allusion déjà, c'est le passage que le Seigneur a lu lorsqu'on lui a donné le livre, et qu'il a livre d'Ésaïe, et comme il le dit lui-même dans le psaume 40, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, ça s'est réalisé à ce moment-là. Il a trouvé ce passage qui parlait de lui, il l'a lu en s'arrêtant au milieu du verset 2. Et après s'être assis, il a dit « Cette écriture est accomplie, vous l'entendant. » Voilà ce qui le concernait. Et ce passage qu'il a lu parlait justement du fait que le Saint-Esprit était sur lui. C'est remarquable que le Seigneur ait choisi ce passage-là aussi pour parler de lui et de son ministère. Et parce que l'Éternel m'a oint du Saint-Esprit. Donc là, c'est l'angle du Seigneur lui-même. Il parle la prophétie déjà, parlait à la première personne. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ce que le Seigneur dit prophétiquement là en Ésaïe et qu'il a dit publiquement à Nazareth, de lui-même. En Ésaïe 42, on a le point de vue, l'angle du Père. Voici mon serviteur que je soutiens. Je mettrai mon esprit sur lui. C'est la même chose, mais le point de vue est différent. Je n'insiste pas qu'en Ésaïe 42. Et puis alors, en Ésaïe 11, on a, si on peut dire, le point de vue du Saint-Esprit lui-même. Il est simplement dit sobrement, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Là, c'est ni je, ni c'est pas l'Esprit Seigneur sur moi, c'est pas je mettrai mon esprit sur lui, c'est l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et c'est touchant aussi de voir, là, c'est pareil, tout de suite après, il y a son ministère de grâce et de justice en même temps, en faveur des misérables et des débonnaires de la terre, verset 4. Mais il y a quelques détails qui sont donnés sur les caractères du Saint-Esprit qui seront manifestés par le Seigneur dans son ministère, et ils sont bien touchants. L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Bah, ça s'attardait sur ces différents points, mais combien cela a caractérisé effectivement le ministère du Seigneur, et combien ça doit nous instruire aussi pour nous-mêmes dans des caractères à rechercher, non pas par nos propres compétences, par nos propres capacités, mais des caractères que le Saint-Esprit peut et veut nous communiquer si nous sommes dépendants. Cet caractère dont nous sommes incapables, le conseil, la force, la connaissance, mais que le Seigneur veut nous donner par son esprit. Et on a donc 6 caractères ici qui vont par 2, sagesse, intelligence, conseil et force, connaissance et crainte de l'Éternel, complété, je m'arrête par un 7e caractère qui vient en premier, c'est l'esprit de l'Éternel. Donc ce qui nous montre que c'est pas juste des esprits de conseil et de force avec un E minuscule, c'est pas juste il a un esprit paisible ou c'est pas seulement le sens de agir dans tel ou tel esprit, c'est vraiment, puisqu'il s'agit de l'esprit de l'Éternel, c'est des caractères du Saint-Esprit manifestés dans la personne du Seigneur qui sont décrits là et qui sont un modèle aussi pour nous, que nous soyons effectivement attentifs à ce que ces prophètes ont écrit si longtemps à l'avance du Seigneur et du rôle du Saint-Esprit dans son service et dans sa marche.
Revenir un peu sur une expression de la prière de tout à l'heure. Le Seigneur Jésus, effectivement, ne parle pas plutôt l'Esprit Saint ne parle pas de lui-même, ne dirige pas les pensées sur lui-même. Et c'est ce qu'on trouve, d'ailleurs, on ne trouve pas exactement, mais le Seigneur dit en Jean 16 et au verset 4, « Celui-là me glorifiera quand il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et quand on voit dans la Genèse, déjà, l'action de l'Esprit, comment il intervient, son rôle. Dans Genèse 1, on voit qu'il est, au verset 2, « Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. » C'était son rôle, il était là, il planait sur la surface des eaux. Ensuite, au chapitre 6, quand après la chute, qu'est-ce qui est dit ? Il est dit que, au verset 3, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on voit aussi dans ce verset qu'on a lu dans la première épître de Pierre, c'est que les prophètes ont parlé, ou plutôt, et ils rendaient témoignage, ou plutôt l'esprit de Christ qui était en eux indiqué, rendant témoignage de ce qui concernait Christ. Le rôle de l'esprit, déjà dans l'Ancien Testament, c'était d'entretenir les fidèles, les hommes pieux, de la personne de celui qui devait venir. Il parlait déjà, l'Esprit de Christ qui était en eux parlait, et cela parlait déjà à ceux de ce temps-là, et combien plus de notre temps aujourd'hui. On voit aussi dans la deuxième épître de Pierre, cette fois-ci, c'est quand Pierre il parle, ce n'est pas en écoutant ou en inventant des fables ingénieusement imaginées que nous parlons, mais c'est par la révélation de Dieu. Et il dit de saints hommes au chapitre 1 et au verset 21, de saints hommes de Dieu ont parlé étant poussés par l'Esprit Saint. Ils étaient poussés, ces hommes, par l'Esprit Saint, pour parler de celui qui devait venir, et comme on l'a vu en Ésaïe exactement, comment l'Esprit serait sur lui, comment il agirait, et c'est ce que nous voyons tout au long de l'Ancien Testament, et combien nous voyons plus encore dans le Nouveau Testament, quand il est question de sa naissance. Donc c'est vraiment le rôle de l'Esprit Saint, effectivement, tout au long des âges, ce n'est pas de contester avec l'homme, mais c'est de montrer l'excellence et la grandeur de l'homme qui devait venir.
Oui, la venue du Seigneur Jésus sur cette terre était un événement tellement grand et important que c'était, pour ainsi dire, nécessaire pour Dieu de l'annoncer longtemps en avance. Dans un sens, Dieu a dit, ce n'est même pas suffisant d'envoyer un précurseur, Jean-Baptiseur, pour annoncer cette personne qui va venir. Mais c'est nécessaire d'annoncer pendant des siècles et des siècles avant de sa venue que ce Messie allait venir. Quand il dit dans 1 Pierre 1, verset 10, « Duquel salut les prophètes se sont informés. » En fait, il n'y a pas d'article, les prophètes. Alors, ce sont bien sûr les prophètes comme Ésaïe, Jérémie, etc., selon lesquels ont été nommés quelques livres dans la Bible. Mais nous pouvons aussi inclure d'autres, par exemple David. Pensons aux psaumes de David dans lesquels il a prophétisé de la naissance, de la vie, disons psaume 16 par exemple, et la résurrection, les souffrances, toutes ces vérités qui concernaient Christ. Alors, il y avait un grand nombre de personnes que Dieu a utilisé comme prophète. Il dit, ils ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée. Pierre écrit à des chrétiens qui avaient une histoire dans le peuple terrestre de Dieu, qui était juif d'origine, et qui était en train de souffrir. Mais il leur montre que maintenant, en tant que chrétiens, malgré les tribulations, ils avaient vraiment des privilèges. Et pour montrer cela, il parle des prophètes. Il dit, regardez, il y avait ces prophètes. Ils ont exprimé des choses qui concernaient le Messie qui allait venir. Mais en fait, c'était pour vous. C'est une expression très belle. La grâce qui vous était destinée. Et encore une autre différence, les chrétiens auxquels cette épître est adressée, ils connaissaient la réalité, la réalisation, l'accomplissement de ces prophéties, tandis que les prophètes se sont informés et enquis avec soin, recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Dieu qui était en eux indiquait. On peut bien s'imaginer, hein, Daniel, il prophétise dans le chapitre 7 que le Fils de l'homme va venir sur les nuées et il va prendre son règne, son royaume. Et deux chapitres plus tard, il dit, et le Messie sera ôté et il n'aura rien. Alors, comment mettre ensemble des prophéties qui semblent tellement contradictoires. Aussi, dans Ésaïe, il a parlé de cette gloire à venir, ce royaume glorieux, et puis il parle des souffrances. Alors, on peut bien comprendre que les prophètes ont recherché, ils se sont posés des questions. Et notre frère vient déjà de mentionner dans le verset 11 cette expression utilisée pour l'Esprit de Christ. Il y a beaucoup de noms pour le Saint-Esprit dans la parole. Et peut-être cette expression aussi utilisée dans Romains 8 pour montrer l'accord avec la personne de Christ, c'est utilisé ici pour... Bon, parce que son rôle était de présenter Christ. Alors, c'était l'Esprit de Christ, ce n'est pas l'Esprit humain de Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui est appelé l'Esprit de Christ parce qu'il a décrit à travers les prophètes la personne et la venue de Christ. Et puis, nous allons voir... c'est un très grand sujet, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. On a dit, pour expliquer un peu la prophétie, je pense que c'est très utile, très simple, mais très utile, les prophètes ont vu deux sommets de montagne. Le premier sommet concerne les souffrances, la première venue, il y a 2000 ans. Mais ils ont aussi vu une autre montagne derrière qui était encore plus élevée, un sommet plus élevé, et c'est la venue en gloire et le royaume de Christ. Ils n'ont pas vu la vallée entre les deux dans laquelle nous vivons le temps de la grâce. Mais ce sont les deux grands sujets que les prophètes ont présentés quant à la venue de Christ. Et tout cela montre cette importance fondamentale de l'arrivée, de la venue du Seigneur que Dieu a pensé nécessaire, que Dieu a souhaité de le faire connaître pendant tous ces siècles avant.
Cette expression de l'apôtre Pierre, donc l'Esprit de Christ rendait par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Elle nous rappelle aussi ce que le Seigneur lui-même, ressuscité, peut dire aux disciples sur le chemin d'Emmaüs dans Luc 24. Luc 24, au verset 25, le Seigneur leur dit: « Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites, ne fallait-il pas que les commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent ?» Nous voyons bien la même pensée dans ce que le Seigneur lui-même dit à ses disciples. Les prophètes, et on a lu, Pierre a lu tout à l'heure ce passage du livre du Lévitique, les types, comme les prophéties, étaient tournés vers le Seigneur Jésus, sont un témoignage que l'Esprit Saint rendait au Seigneur Jésus, à ses souffrances, à ses gloires aussi, aux gloires qui suivraient. Le Seigneur, donc, emploie ces mêmes expressions, ou plutôt c'est Pierre qui emploie ces expressions que le Seigneur Jésus lui-même avait employées, parlant du témoignage des prophètes, aux souffrances qui devaient être sa part et aux gloires qui suivraient. Deux petites remarques en liant ces passages. La première, c'est que le Seigneur met le doigt sur ce qui gênait, ce qui empêchait les disciples de percevoir la valeur, de recevoir ce témoignage de l'Esprit Saint, de percevoir la valeur de l'Écriture, le sens de l'Écriture. C'était le fait qu'il n'ait pas d'intelligence, c'est-à-dire que leur cœur, leur pensée était tournés vers eux-mêmes, vers leurs propres pensées, et non pas tournés vers le Seigneur. Et d'autre part, ils étaient lents de cœur à croire. Alors, quand nous abordons de tels sujets concernant la personne du Seigneur Jésus, quand nous avons ce désir de recevoir le témoignage que l'Esprit Saint rend à la personne du Seigneur Jésus, il nous faut mettre de côté notre intelligence naturelle pour être guidés par l'Esprit Saint lui-même. Il nous faut avoir des cœurs attentifs et engagés pour cela, et il nous faut le faire avec foi. Et c'est très important, parce que sinon nous sommes en danger d'avoir une lecture intellectuelle de la parole de Dieu et de passer en réalité à côté du cœur de la parole, c'est-à-dire du Seigneur Jésus lui-même. D'autre part, une autre remarque, c'est que le Seigneur leur ouvre les Écritures. Donc le témoignage du Saint-Esprit par les prophètes, il a été consigné dans les Écritures, que ce soit par Moïse, que ce soit par les prophètes, et les prophètes au sens large, effectivement, tous ceux qui étaient poussés, conduits par l'esprit prophétique, si on peut dire, ce témoignage, il nous a été donné dans les Écritures. Et c'est important aussi pour nous, parce que ce n'est pas laissé à notre imagination, si on peut dire. Et tout au long de l'histoire, il y a des hommes qui ont laissé fonctionner leur imagination, qui ont fait fonctionner leur imagination, leur raisonnement, pour essayer de comprendre les choses de Dieu. La base et le témoignage de l'Esprit Saint, il se trouve dans les Écritures pour tout ce qui concerne, j'allais dire, pour tout ce qui va diriger nos cœurs vers le Seigneur Jésus. Mais ce qui est aussi merveilleux, et ce qui était la part des croyants à qui l'apôtre Pierre écrivait et qui est notre part à nous aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement ce témoignage des Écritures, mais il y a ce qui nous est dit de la personne du Seigneur Jésus. Et comme on le verra, non seulement l'Esprit rend témoignage par les Écritures, mais l'Esprit est venu descendre au baptême du Jourdain. L'Esprit est venu descendre sur le Seigneur, qui a agi par l'Esprit, qui a poursuivi son chemin, qui a accompli ses œuvres par l'Esprit. Et donc on voit, non seulement dans le témoignage de l'Écriture, mais dans la personne du Seigneur, ce témoignage de l'Esprit Saint à la grandeur, à la gloire et à l'œuvre du Seigneur Jésus.
Je pense, on oublie parfois l'importance de l'Esprit de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé le verset que tu as cité, et j'aimerais bien le relire en le deuxième verset de la Bible, en Genèse, chapitre 1, verset 2. « Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. » Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. On voit ici l'importance aussi de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si je reviens maintenant dans ce verset 10 ici, le premier épître de Pierre, chapitre 1, l'épître de Pierre, c'était écrit à des chrétiens qui avaient perdu la confiance, qui avaient perdu l'espoir. Et c'est étonnant, Pierre, il ne dit pas « Regardez ma vie, faites comme moi j'ai fait, j'étais avec le Seigneur Jésus ». Non, toute sa grandeur se manifeste en montrant, en parlant de l'Écriture. Et si on vient maintenant dans le verset 10, il dit « La grâce qui vous était destinée se sont informées et en qui avec soin. » Quelque chose de très important. Ça me rappelle aux chrétiens de Béreux. Ils regardaient ce qui était, si c'était vraiment écrit dans la parole de Dieu, ce qui était annoncé. Et maintenant, dans le verset 11, vient quelque chose de très important. « Recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux. » Hein? L'Esprit de Christ dans l'Ancien Testament, oui. C'est ça. C'était toi qui as cité Luc 24. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Le Seigneur Jésus, il leur montrait l'Ancien Testament, et tous, partout, on parlait de lui. Et c'est ça, le but de la parole de Dieu, le but de notre vie sur la terre, c'est de montrer quelque chose de Christ, du Seigneur Jésus. Et nous ne devons pas oublier que ce doit être fait avec soin. Soin, ça veut dire, ça prend du temps, ça prend un peu d'effort. Et la vie d'un chrétien n'est jamais facile. C'est trop facile de dire, tout est réglé si tu viens de chrétien. Oui, beaucoup de choses sont réglées, mais la vie d'un chrétien n'est pas facile et ne va pas être facile. Mais le Saint-Esprit veut nous montrer par ces versets la valeur du Seigneur Jésus. Et c'est merveilleux comment il le dit, qui était en eux, indiquant, rendant, je reviens au verset 11, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suffiraient. On nous a déjà appelé, nous sommes aussi dans la vallée on oublie souvent de regarder en haut, de regarder la pointe, mais ici, c'est une consolation et des versets importants pour notre vie de chrétien de tous les jours aussi.
Quand le Seigneur était sur la terre, il a dit à ses disciples, et je cite Matthieu 13, le verset 17, car en vérité, je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs justes ont désiré de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. Peut-être Pierre pensait à ce moment où le Seigneur était sur la terre quand il écrivait cette première lettre. Nous avons entendu que c'était une consolation aussi pour les chrétiens à qui Pierre écrivait cette lettre, parce que c'est le temps qui était maintenant venu. Les prophètes, aussi par le Saint-Esprit, en prophétisaient. Et maintenant, c'est la bonne nouvelle, l'évangile qui a été annoncé aussi par le Saint-Esprit. Les deux étaient... la puissance de Saint-Esprit comme origine. D'ailleurs, peut-être une pensée pratique, comme c'était une consolation peut-être pour les chrétiens là où Pierre écrivait cette lettre, parce que pour les consoler, ils ont maintenant ça, c'est ce qui les prophétisait des centaines d'années avant. Je pense souvent, nous aussi, nous vivons un temps, où on peut voir que des prophéties qui ne sont pas encore venues, on peut voir les venir. Et c'est peut-être aussi une consolation pour nous que ça va venir bientôt. C'est ce qu'il se passe sur la terre, on peut voir, par exemple, dans l'Apocalypse, quelque chose qui sent encore un peu ombreux pour nous. Nous ne comprenons pas tous, comme les prophètes d'ailleurs, mais on peut voir que ça se va réaliser dans peu de temps. Maintenant, c'était arrivé ici, en Israël. Et une deuxième pensée, parce que ça va peut-être aussi conduire aussi aux deux versets ou deux passages qu'on a lus des évangiles, l'importance que le Seigneur est devenu homme est telle que c'est si souvent souligné dans l'Écriture dès le début. Donc Jésus est venu sur la terre, il était né d'un homme. Mais en même temps, il était Dieu engendré par le Saint-Esprit. Cette vérité, homme et Dieu dans une personne, est si beau illustrée de sa naissance, et spécialement l'annonce de l'ange pour Marie, directement d'ailleurs, et elle croit, et indirectement aussi pour Joseph, que celui qui est né est un vrai homme, parce qu'un vrai homme a né le Seigneur Jésus. Et un vrai, il est vraiment Dieu, verus homos, verus Deus, et parce que c'est le Saint-Esprit qui a enchanté. Ce n'était pas un homme, c'était le Saint-Esprit. C'était un miracle qui était unique pour le Seigneur Jésus.
Par rapport aux deux passages qu'on a lus sur Matthieu et Luc, pour l'annonce de la venue du Seigneur à Joseph et à Marie, c'est très touchant de voir comment il nous est parlé de cela. En Matthieu, on voit qu'il y a un ange qui apparaît à Joseph. Et il apparaît en songe. Et il dit, ne crains pas. Et puis, Marie, ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. Il dit ça à Joseph pour éviter tout malentendu. Ce qui viendra de Marie a été conçu par l'Esprit Saint. Quelque chose devant laquelle on s'incline, n'est-ce pas, devant ce mystère de la naissance, la conception même du Seigneur Jésus. Et dans Luc, il est très intéressant de noter qu'il y a aussi l'apparition de l'ange d'abord à Zacharie à propos d'Élisabeth. Et là aussi, comme à Joseph, l'ange dit, ne crains pas, Zacharie. Et puis, ta femme, Élisabeth, enfantera un fils, tu appelleras son nom Jean. Donc là, on voit bien qu'il y a la conception, elle n'est pas de l'Esprit Saint. Mais il est dit après, verset 15, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. C'est-à-dire qu'il y a cette action de l'Esprit de Dieu pour que Jean le baptiseur soit celui qui annoncerait. Et d'ailleurs, on le voit à la fin de ce chapitre premier, au milieu, que même quand Élisabeth reçoit la visite de Marie, l'enfant tressaille dans son ventre. L'Esprit était là, n'est-ce pas? Il était... Jean le baptiseur avait déjà tressailli de joie. Et son ventre, c'est quand même frappant de voir cela. Le Saint-Esprit qui a été avec Jean le baptiseur dans le ventre de sa mère, et puis l'Esprit de Dieu qui était entièrement dans Marie. Et il y a cette joie infinie entre les deux mamans et les deux enfants. C'est très touchant de voir cela, de voir la grandeur. Et en Luc, un mot, quand l'ange Gabriel, il vient lui-même. C'est pas un songe, c'est l'ange de Gabriel lui-même qui vient, qui descend et qui s'arrête, qui parle. On voit, il y a tout un échange avec Marie. Ne crains pas, Marie. Et alors, il y a, tu concevras, tu enfanteras un fils. Et Marie, ta l'ange, mais comment cela arrivera? L'ange répondant, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance, quelle délicatesse, quelle chose dans cette annonce à Marie de la part de l'ange Gabriel, celui qui avait aussi annoncé à Zacharie la naissance de Jean le baptiseur. Tout cela est propre à toucher nos cœurs devant la grandeur du Seigneur Jésus, devant la puissance, l'action de l'Esprit de Dieu. Et dans le Seigneur Jésus conçu, l'Esprit Saint, la puissance de Dieu est là. C'est vraiment là. Tout est de Dieu dans cela.
Effectivement, on peut citer ce verset de Ésaïe 7 comme transition entre ce qu'on a vu dans la première partie avec l'Esprit de Christ qui rendait témoignage par avance. Et donc, parmi ces témoignages rendus à l'avance, il y avait ce verset de Ésaïe 7 qui est cité en Matthieu 1. Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, qui est donné à Joseph, comme on vient de le voir. Et il me semble que ce verset, il est très important, parce qu'il il a été donné à l'avance, et il me semble qu'on pourrait dire comme pour prévenir toute mauvaise interprétation du fait que Marie soit enceinte, étant une vierge et qui n'était pas encore un homme. Et on voit en Matthieu 1, justement, que Joseph est troublé en considérant que sa fiancée est enceinte. Et on peut comprendre ce trouble et on comprend naturellement, peut-être qu'on peut avoir, comme Marc l'a dit, des malentendus ou des... Il y a comme une apparence ou une suspicion de mal, mais il me semble que le fait que l'Esprit Saint ait annoncé à l'avance dans Ésaïe que la Vierge serait enceinte et qu'elle enfanterait un fils est là pour régler la question, mais nettement, à l'avance, l'Esprit de Dieu l'avait annoncé et il n'y a aucun trouble, aucun malentendu. Aucune suspicion à avoir, c'était annoncé par l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est dans la pureté. Et il me semble donc que ce verset qui est donné comme confirmation à Joseph est très important pour l'apaiser complètement par rapport à sa situation. Et aussi sur ce fait que le Seigneur, en tant qu'homme, il a été conçu du Saint-Esprit. Et il me semble aussi que c'est quelque chose de très, c'est un mystère, c'est quelque chose aussi de très précieux, et c'est qu'on voit qu'il n'est pas un homme, il est un homme saint, un homme sans péché, et dans la conception du Seigneur, il y a donc l'action du Saint-Esprit, et il n'y a aucune volonté humaine engagée. Ni d'un homme, ni d'une femme, c'est le Saint-Esprit qui conçoit dans le ventre, dans le sein de la Vierge. Il n'y a aucune volonté d'un homme engagée, c'est la seule action de l'Esprit de Dieu. Et dans Luc 1, on voit que l'ange dit à Marie, la sainte chose qui naîtra de toi. Et c'est seulement par cette conception-là du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus est considéré comme saint. Adam, il a été créé innocent. Tous les hommes qui ont été engendrés à la suite d'Adam ont été engendrés dans le péché. Mais lui, le Seigneur, il n'est ni innocent, ni engendré dans le péché, mais il est saint. Saint, c'est autre chose qu'innocent. Innocent, on ne connaît pas le bien et le mal. Saint, il y a la connaissance du bien et du mal, mais il y a, on est pour ainsi dire, seulement du côté du bien. Et donc le Seigneur Jésus, il est saint parce qu'il a été conçu du Saint-Esprit, qu'il n'y a pas eu de volonté d'un être humain engagé dans sa conception et dans sa naissance. Il est saint. Et aussi peut-être que dans un certain sens, donc cette conception du Saint-Esprit est là pour nous montrer que le Seigneur Jésus est saint comme homme, il est pur absolument, et il me semble aussi que dans certains passages de l'Écriture, le fait qu'il ait été conçu par le Saint-Esprit, il est appelé Fils de Dieu étant conçu par l'Esprit Saint. Et il me semble que l'expression « Fils de Dieu », elle a différents sens dans la Bible. Et il y a le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Mais il y a aussi, il me semble, qu'il est appelé fils de Dieu parfois, avec cette pensée qu'il a été conçu de l'Esprit Saint, et il est fils de Dieu, donc, dans ce sens, comme homme, parce qu'il a été conçu par l'Esprit Saint.
Oui, je voudrais revenir un peu sur ce qui vient d'être dit pour le confirmer. On peut être effectivement peut-être des fois un peu surpris de lire en Luc que c'est parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, c'est pourquoi celui qui naîtra, donc ce saint être, cette sainte chose qui naîtra, c'est pourquoi il sera appelé fils de Dieu. Ça peut nous surprendre un peu que ça soit lié à cette conception surnaturelle et donc spirituelle, enfin par le Saint-Esprit, parce qu'on sait qu'il était déjà fils de Dieu avant, de toute éternité. Et c'est un peu la même chose qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, aussi au premier chapitre, où en citant le psaume 2, l'auteur rappelle cette citation « Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. » Et donc ça a donné lieu d'ailleurs à des fausses doctrines de chrétiens qui ont enseigné que le Seigneur n'était fils que depuis sa naissance. Alors que nous savons que c'est faux. Et il y a d'autres passages de la parole qui montrent clairement qu'il est fils de Dieu de toute éternité. C'est bien important de le rappeler. Je citerai juste ce qui est dit dans Jean 1 de la parole, dont nous savons, mais là il n'est pas question du caractère de fils, mais qu'elle était auprès de Dieu de toute éternité, dans cette relation de fils, et ce qui est dit au verset 18 de Jean 1, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître, c'est un présent éternel, il est fils de toute éternité. Donc, je n'ai pas besoin ici d'insister lourdement sur ce point-là, mais c'est quand même important. Il y a cette relation existée entre le Père et le Fils bien avant l'incarnation. Mais l'incarnation a ajouté un caractère différent, nouveau. Le fait que le Seigneur est devenu homme, la parole est devenue chair, et en tant qu'homme, il a aussi ce caractère et ce titre de fils de Dieu à cause de sa conception virginale. Et donc ça contredit pas le fait qu'il était fils de Dieu de toute éternité, c'est une nouvelle gloire. Il est fils de Dieu aussi comme homme. Et c'est ce à quoi il est fait allusion dans le psaume 2 et dans Hébreux 1. Pour ça qu'il est dit « Moi, je t'ai aujourd'hui engendré ». C'est que cette nouvelle relation, en quelque sorte, cette nouvelle gloire de Christ, elle date effectivement de sa naissance, de sa conception. Mais elle ne remplace pas, elle ne contredit pas le fait qu'en tant que personne divine, il est fils de Dieu de toute éternité, mais aussi en tant qu'homme, il est fils de Dieu depuis sa naissance, depuis sa conception, comme un titre qui lui est donné supplémentaire en quelque sorte. Et on voit bien d'ailleurs que les deux choses ne se contredisent pas, puisque dans le même passage d'Hébreux 1, je lis juste ça au verset 8, il y a une deuxième citation. « Quant au Fils, ton trône, ô Dieu, est au siècle des siècles. » Voilà, on a à la fois « il est Fils au siècle des siècles de toute éternité » et en même temps, il y a cette nouvelle relation, nouvel caractère de Christ dans sa naissance comme homme, où il est aussi, dans ce sens-là, fils de Dieu. Mais voilà, c'est un sujet très, très sain. Quand on parle de Christ, il faut faire attention. Mais je pense que la parole nous autorise à dire cela, qu'il y a une nouvelle gloire qui s'attache à sa personne comme homme, et qui est en fait le même titre, mais sous un caractère différent. Il est aussi fils de Dieu en tant qu'homme.
Ce sont des choses profondément saintes que nous avons là, dans cette annonce de la naissance du Seigneur. Et on voit que
il est dit, on a lu tout à l'heure, je crois, en même Pierre, des choses dans lesquelles les anges désirent de regarder de près. On voit cette attention de l'armée céleste, des anges de Dieu par rapport au Seigneur Jésus, par rapport à sa venue, par rapport à tout ce qu'il a fait. Et là, on voit l'ange auprès de Joseph, on voit l'ange auprès de Zacharie, on voit l'ange Gabriel avec Marie. Quel intérêt est porté? Et puis, au chapitre 2 de Luc, à la naissance du Seigneur, là aussi, l'ange parle au berger, et puis une multitude de l'armée céleste louant Dieu, gloire à Dieu. Oui, le Seigneur Jésus vient, le Fils de Dieu descend, vient sur cette terre. Mais on voit, il y a toute, depuis sa conception jusqu'à l'annonce à Marie, à sa naissance, les anges désirent de regarder de près, avec attention. Que ce soit aussi notre part de regarder de près dans ces choses-là, dans ces choses infiniment précieuses pour nos cœurs, infiniment saintes aussi. Et pour ça qu'on s'approche avec sérieux, avec crainte de ces choses-là.
Nous devons aussi toujours avoir à l'esprit qu'en fait, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est en fait une seule et même personne. Mais bien sûr avec des caractères, des rôles différents. Et dans la première épître de Pierre, cette épître commence par les trois personnes de la déité. Au verset 2, la préconnaissance de Dieu le Père, ensuite en sainteté de l'Esprit, et puis pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Dans la scène que nous avons dans l'Évangile selon Luc, cette scène de la naissance du Seigneur, il y a de nouveau les trois personnes qui sont là. Nous avons vu, verset 35, « L'Esprit Saint viendra sur toi ». Et puis il est parlé de la puissance du Très-Haut, puissance de Dieu. Et voilà, et la chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Alors, il y a des sujets c'est un sujet qui est élevé, et je pense que nous ne pouvons pas tout comprendre non plus. Surtout quand nous voyons l'Esprit Saint descendre sur le Seigneur, on en parlera plus tard. C'est difficile à comprendre puisque en fait c'est son esprit. On voit qu'ici il est parlé de l'esprit de Christ. D'autres passages il est parlé de l'esprit de Jésus ou de l'esprit de vie qui est en Jésus. Donc c'est quand même des choses qui forment un tout, mais qui ont des caractéristiques un peu différentes. Et comme nous on parle surtout du Saint-Esprit, il faut penser au rôle qu'a le Saint-Esprit justement dans la Trinité. On l'a vu dans Jean 16, le Saint-Esprit est là pour parler de Jésus. Le Saint-Esprit est vu plutôt comme un serviteur, tout en étant bien sûr Dieu, puisque cela n'est qu'une seule personne. Mais combien c'est beau de voir que voilà, la Trinité est à l'œuvre tout le temps, et nous le voyons même ici dans la naissance du Seigneur Jésus. Juste dans 1 Pierre, nous avons vu donc l'Esprit de Dieu qui était en eux. En général, dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait sur eux. Mais voilà, on sait bien, ils n'habitaient pas en eux comme le croyant. Mais voilà, il y avait cet esprit qui venait chez eux. Et voilà, ici, c'est dit pour parler du Seigneur Jésus. C'est pas que l'esprit venait une fois, puis il partait, puis il revenait. On voit qu'il y avait quand même une vie spirituelle parmi ces croyants. Et on voit donc, il est parlé de l'Esprit qui était en eux, les prophètes, et puis la fin du verset 12, par l'Esprit Saint envoyé du ciel, c'est l'Esprit Saint qui est descendu lors de la Pentecôte. Une dernière petite remarque, nous avons dit au verset 10, ils ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée, cette grâce qui est pour nous, cette merveilleuse grâce de Dieu, la grâce c'est pour nous. Mais les souffrances, au verset 11, les souffrances, c'était la part de Christ.
Ici, donc, on a entendu plusieurs choses. Effectivement, l'Esprit était là pour rendre témoignage de Christ. Mais ici, dans nos versets, dans Matthieu et Luc, c'est autre chose. C'est l'Esprit qui agit. Il ne rend pas témoignage. Conçu ce qui est né, ce qu'on lit dans l'Évangile selon Matthieu, conçu en elle et de l'Esprit Saint. Ce n'est pas simplement un témoignage qui est rendu. C'est l'Esprit Saint qui agit. On a dit que l'Esprit Saint était l'agent divin dans la création. L'agent divin dans la création. Et quand le Fils prend la forme d'un homme, s'inscrit dans la création, sans être jamais une créature, quand il s'inscrit dans la création, l'Esprit Saint agit. On a dit tout à l'heure aussi, mais il me semble qu'on peut... que ce verset-là, justement, ce qui est conçu en elle et de l'Esprit Saint, va plus loin que le fait que la volonté de l'homme n'est pas du tout en jeu dans cette question. C'est l'homme lui-même, le premier homme, qui n'est pas du tout en jeu. C'est vraiment de l'Esprit Saint. Comme Adam a été créé de la poussière, de rien, il a été créé adulte. Le Seigneur, il est dit quelque part, tu m'as formé un corps. Et c'est l'Esprit Saint qui est l'agent pour former ce corps qui va se développer comme un homme. Et le Seigneur, effectivement, naîtra comme un enfant, de saint enfant qui va naître. Mais c'est vraiment ici le rôle, c'est pas simplement de rendre témoignage, mais c'est vraiment l'action. Et il est dit ici, elle sera ailleurs, il est dit, la puissance du Très-Haut t'enveloppera, mais ici, elle enfantera plutôt ce qui est conçu en elle et de l'Esprit Saint.
Je pense que c'est très important, et très important d'éviter des confusions. On pourrait se poser des questions, je cite un verset dans Job au chapitre 33, Job 33, ce que dit Élihu, Job 33, verset 4. « L'Esprit de Dieu m'a fait, et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. » Et il ajoute ensuite au verset 6, « Voici, je suis comme toi quant à Dieu, je suis fait d'argile, moi aussi. » Et c'est bien là qu'est la différence. Enfin, et ça souligne, pour comprendre cette différence, ça souligne ce qui vient d'être dit par Pierre-Éric. On pourrait dire, bien sûr, pour Job, peut dire aussi « l'Esprit de Dieu m'a fait ». Et dans un sens, tout homme, quel qu'il soit qui naît dans ce monde, est une créature de Dieu, et Dieu a formé cette vie. Et l'Esprit de Dieu, qui est l'agent divin, comme on l'a rappelé, l'Esprit de Dieu travaille pour que l'homme qui naît dans le monde naisse vivant, comme une créature. Mais il est fait d'argile. Nous sommes issus d'Adam, descendant d'Adam, Adam a été tiré de la terre, poussière. L'homme est destiné, en tant que tel, à retourner à la terre. Évidemment, retourner à la poussière. Après, il y a bien sûr la rédemption, et la rédemption concerne notre être tout entier, et qui concernera notre corps dans la résurrection. Mais je suis fait d'argile. Nous ne sommes que des descendants d'Adam, nous sommes des créatures particulières, des créatures auxquelles Dieu attache une importance particulière, puisque l'homme est une créature de Dieu, l'Esprit de Dieu nous donne cette vie, mais c'est tout à fait différent, comme Pierre-Éric vient de le souligner, du fait de ce qui concerne le Seigneur. Le Seigneur n'est pas une créature, il est le Dieu éternel, et il vient dans l'humanité, et pour que le Seigneur, le Fils de Dieu, vienne ainsi, prenne cette humanité, pour que Dieu lui forme un corps, eh bien, il faut effectivement cette œuvre du Saint-Esprit, cette conception du Saint-Esprit. Ça ne peut être qu'une œuvre divine, l'œuvre de l'Esprit qui va agir pour que, selon la pensée de Dieu, ce corps humain, mais pur et saint, entièrement pur, entièrement saint, soit donné au Seigneur Jésus. C'est des choses, bien sûr, qui nous dépassent, mais je veux dire, c'est important d'avoir cette pensée que, quelle que soit la noblesse, si on peut dire, ou la grandeur de l'homme comme créature, quel que soit le fait que l'homme soit une créature de Dieu particulière et qu'il reçoit ce souffle divin, d'une certaine manière, dans sa dans une certaine mesure à sa naissance, c'est absolument incomparable avec l'incarnation du Seigneur Jésus, cette action de l'Esprit pour que cette expression extraordinaire, ce qui est en toi a été conçu de l'Esprit Saint, pour que le Seigneur, le Fils de Dieu vienne comme un homme, mais cet homme divin.
Juste, je mentionne deux versets où il est bien question, en rapport avec la venue du Seigneur comme homme, non pas de création, mais d'être formé. Il y a Hébreux 10 qui cite le psaume 40. Dans le psaume 40, c'est « Tu m'as creusé des oreilles ». Et dans la citation en Hébreux 10, verset 5, il est dit « Mais tu m'as formé un corps ». Jamais il n'est employé le verbe « créer » pour parler de la personne du Seigneur Jésus comme homme. Alors, il y a aussi, il faut le mentionner, Colossiens 1, verset 16, qui est avancé par certains pour s'opposer à cette pensée. Le Seigneur est appelé en Colossiens 1, verset 16, le premier-né de toute la création, ou plus exactement, premier-né de toute création. Et alors, il y a par exemple, les témoins de Jéhovah qui mettent ce verset en avant pour dire ben, « c'est pas vrai, regardez, le Seigneur est une créature », Colossiens 1, verset 16 le dit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que premier-né, ça ne veut pas dire celui qui est né avant tous les autres, mais c'est une question de rang, de dignité. Et le Seigneur Jésus, en tant qu'homme, on pourrait dire, il me semble correctement, il est entré dans la création sans être une créature, et étant entré dans la création en tant qu'homme, il est le premier-né, c'est celui qui a la dignité, le rang le plus élevé de tous. Et ce n'est pas qu'il est né avant tous les autres. On le voit bien, en tant qu'homme, il n'est pas né avant tous les autres, mais il est le premier-né, celui qui est au-dessus de tous.
Je suis très reconnaissant pour ces remarques. Nous réalisons que nous sommes sur une terre sainte, pour ainsi dire. On enlève les chaussures pour être très prudent quand on parle de la personne du Seigneur. Je suis très content de ce que cela, l'accent a été mis sur cela, que son corps a été formé, mais la parole évite l'expression « créer » ou « création ». J'aimerais rajouter un troisième verset pour montrer cela. Dans Jean 1, il dit, verset 3, « Toutes choses furent faites par elle, la parole, alors le Fils, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. » Alors, ce verset aussi, c'est une preuve que le Seigneur, le Fils, ne fait pas partie de ce qui a été fait, parce que tout ce qui a été fait par la parole, justement, par lui. Une pensée encore sur la Trinité. Parce que la Trinité est en jeu à chaque moment, à plusieurs occasions fondamentales. La création, l'incarnation du Seigneur, le baptême, sa mort, sa résurrection et peut-être d'autres. Ce sont des occasions où on voit les trois personnes de la divinité, et on voit qu'ils opèrent ensemble en harmonie. Alors, ce que notre frère a voulu dire, je crois, c'est que il y a trois personnes. Dieu a été révélé en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Néanmoins, c'est un seul Dieu. Alors, trois personnes, un seul Dieu. Et les personnes de la divinité agissent en harmonie. Alors ici, dans notre verset, nous voyons que, justement, c'est le cas. C'est le Saint-Esprit qui a son rôle dans cette conception miraculeuse du Seigneur. Le résultat, c'est que le Seigneur a une mère humaine, mais il n'a pas un père humain. Il est vraiment né de la semence de David, mais complètement à part le péché et à part la volonté de l'homme. Et dernier point, appelé fils de Dieu. On a vu que lui, il est le fils éternel. Ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'il y a un homme sur la terre qui a le droit de porter ce nom, fils de Dieu. Pourquoi c'est tellement important qu'il est aussi le fils éternel? Parce que sans cela, on n'aurait ni une preuve de l'amour divin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils, hein, ou celui qui avait une vigne, hein, quand il avait encore un fils bien-aimé, il l'envoya lui aussi. Et deuxièmement, on n'aurait pas de révélation de Dieu. Qui aurait pu révéler le cœur du Père si ce n'est pas le Fils unique qui a connu et savouré cet amour dans l'éternité passée?
Juste une petite remarque sur l'évangile de Matthieu. Il était fiancé, mais le Seigneur l'appelle déjà sa femme. Et un couple très simple. Et on doit, si on se met un peu à la place de Joseph, il réagit tout à fait normal. Il essaye de se libérer. Et puis, il y a un ange. Qu'est-ce que c'était pour lui? Un ange lui parle. Et maintenant, sur le point où je veux insister, il dit dans le verset 22, « Or, tout cela arrivera afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète. » Donc, l'ange remet de nouveau Joseph. Mais regarde dans les prophètes, regarde ce qui est écrit. Si tu hésites, si tu n'es pas sûr de moi, mais regarde les prophètes. C'est une œuvre de Dieu qui se passe ici. Et on ne voit pas bien, la parole nous montre pas le cœur de Joseph et de Marie, ce qu'ils ont pensé. Mais ce qui est important, c'est toujours le retour à la parole de Dieu, le retour à ce qui a été écrit. Et voici, la Vierge sera enceinte. La Vierge, elle était sainte. Et je me mettais un peu à la place de Joseph. Qu'est-ce qu'il a pensé dans tout cet exercice? Il n'avait pas cette compréhension, il n'était pas un simple menuisier, il n'avait pas un instruit, simple homme, quand il a eu ce message. Mais il a eu cette simple foi à croire ce que Dieu lui avait dit.